France Inter.
Le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. C'est désormais une armée engagée de façon massive sur deux fronts bien distincts. L'armée israélienne poursuit ses frappes sur Téhéran, les bureaux de la présidence iranienne visés ce matin. Mais elle déploie aussi désormais ses soldats dans le sud du Liban pour mieux lutter contre le Hezbollah libanais. 330 000 Libanais déplacés ces derniers jours. On ira à Beyrouth et à Jérusalem dans ce 13-14. On prendra aussi la direction du sultanat d'Oman où un port a été frappé par des drones iraniens, les pays du Golfe encore au cœur du conflit, eux aussi, y compris sur le plan économique. L'Iran bloque le détroit d'Ormuz, détroit stratégique, notamment pour l'acheminement du pétrole. On en parle avec notre invité tout à l'heure à 13h30. Et avec vos questions, 01 45 24 7000. Et c'est dans ce contexte que la France annonce affréter des vols pour rapatrier certains ressortissants. Bonjour Louise Adélaïde Boinard.
Bonjour.
Mais on verra que ça concernera très peu de Français.
Oui, a priori, les malades, les femmes enceintes et les bébés, une goutte d'eau parmi les 400 000 Français présents dans les pays du Golfe. Le Quai d'Orsay veut surtout guider les Français pour les aider à partir plutôt que de les prendre en charge lui-même.
Merci Louise Adélaïde, à tout à l'heure pour les précisions. Au programme également, les opérations de nettoyage se poursuivent dans l'ouest de la France. Après les crues exceptionnelles de ces dernières semaines, on ira en Loire-Atlantique où les agents municipaux en sont encore écoutés à évaluer les dégâts.
Des équipements métalliques qui vont peut-être être amenés à rouiller, ça peut être des placos qui vont être foutus puisqu'ils auront pris l'humidité, donc vont être déformés, qu'on ne pourra même pas repeindre par exemple, ça va être des éléments comme ça. Et plus qu'on ne voit pas, l'isolation.
Reportage à Oudon, dans les prochaines minutes, on parlera aussi du Salon du Livre de Paris en pleine polémique à cause de son partenariat avec le groupe Amazon. Et puis des stations de lavage qui se multiplient, alors pas pour les voitures mais pour les chiens, puisque c'est visiblement la nouvelle tendance. Voilà pour le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Ils ont dormi dans des abris collectifs, dans des voitures garées au bord des routes. Au moins 30 000 déplacés ont été comptabilisés au Liban ces dernières heures, selon les Nations Unies, contraints de fuir leur maison dans le sud du pays, dans la Beka, dans la banlieue sud de Beyrouth, menacés par des frappes israéliennes contre le Hezbollah. Et ce n'est sans doute pas terminé, car l'armée israélienne vient d'entrer dans le sud du Liban. Bonjour Arthur Saradin.
Bonjour.
Vous êtes à Beyrouth pour France Inter. Il s'agit, selon l'armée, de créer une zone tampon.
Oui, en effet, on parle d'incursion d'un demi-kilomètre dans le territoire libanais à partir de postes israéliens qui occupaient déjà plusieurs portions de la frontière depuis l'automne 2024. Les habitants, eux, ils ont fui la zone. On les voit sur la route autour de nous, cette route qui relie le sud Liban à la capitale. Plus on approche, d'ailleurs, de la frontière et plus cette même route se vide. L'armée israélienne a en effet ordonné l'évacuation de plus d'une cinquantaine de localités dans la région. Plutôt dans la journée, la même armée israélienne avait frappé les intérêts économiques du Hezbollah, notamment son réseau de banques, mais également sa télévision et sa radio officielle. Les autorités libanaises, quant à elles, estiment que l'armée nationale n'est pas en mesure de répondre à une potentielle invasion terrestre du territoire par Israël.
Merci Arthur Saradin, correspondant de France Inter au Liban. Et bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour.
En direct de Jérusalem. Alors comment ça se passe de l'autre côté de la frontière, dans le nord d'Israël ?
Eh bien, une alerte cette nuit pour l'intrusion de deux drones immédiatement interceptés. C'est la deuxième fois, Céline, que le Hezbollah tente de frapper le territoire israélien depuis la nuit de dimanche à lundi et son entrée en guerre, sans conséquence pour le moment. Rien à voir en tout cas avec la puissance de feu engagée par la milice chiite quand elle est justement entrée une première fois en guerre contre Israël. C'était le 8 octobre 2023. Alors, dans le nord du pays, le Hezbollah n'effraie plus personne. Il y a 2 ans et demi, les autorités de l'État hébreu évacuer 60 000 habitants de la zone. Cette fois, ce ne sera pas le cas.
Alors, est-ce qu'on peut voir dans les nouveaux développements de ce matin, Thibault, la preuve que c'est une opération qui est préparée depuis longtemps par Israël ?
Ah oui, clairement. À se demander même si cette guerre s'est réellement interrompue lors de la trêve de novembre 2024. L'armée de l'État hébreu n'a cessé depuis de bombarder les positions présumées du Hezbollah. Et Israël occupait déjà, avant l'avancée de ses troupes de cette nuit, 5 positions sur le territoire libanais, en violation donc du droit international. Alors plus qu'une opération au sol, on assiste donc depuis cette nuit à une extension de l'occupation illégale israélienne au Liban. Ce qui change en revanche, c'est l'étendue des objectifs objectif. Jusque-là, l'aviation israélienne ne semblait cibler que la branche armée du Hezbollah. Cette fois, c'est toute la nébuleuse de la milice chiite qui est visée, ses médias, ses organes de financement, ses représentants politiques. L'État hébreu veut éradiquer le Hezbollah et il n'y a plus personne au Liban, même parmi les autres partis chiites, pour défendre l'allié de l'Iran.
Merci Thibault Lefebvre, en direct de Jérusalem, où vous êtes le correspondant de France Inter. Le Haut Commissariat des Nations Unies assure être profondément préoccupé par l'escalade des hostilités au Liban et leur impact sur les civils et les infrastructures. Et puis de son côté, le président libanais rappelle qu'il a décidé d'interdire les activités militaires du Hezbollah, que sa décision est irrévocable. Joseph Aoun espère aussi, appelle aussi la communauté internationale, dont la France et les États-Unis, à faire pression sur Israël pour, je cite, qu'il cesse ses agressions contre le Liban. Ce conflit a aussi un impact très visible dans les pays du Golfe, ciblés par l'Iran en raison de leur alliance avec les États-Unis. La plupart de ces pays ont été victimes de frappes iraniennes ces derniers jours. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyée spéciale de France Inter au Sultanat d'Oman, séparé de quelques kilomètres seulement de l'Iran par le détroit d'Ormuz. Et ce matin, Isabelle, un port particulièrement stratégique a été touché.
Oui, le port de Duqm sur la mer d'Arabie, une plateforme logistique gigantesque qui accueille les très grands navires de fret. Ce matin, des drones ont pris pour cible les réservoirs de carburant. L'un d'entre eux a été endommagé, mais il n'y a que des dégâts matériels. C'est la deuxième attaque depuis dimanche. Un ouvrier avait alors été blessé. Malgré son rôle de médiateur entre Téhéran et Washington, malgré sa neutralité revendiquée, le sultanat d'Oman n'est pas épargné par les frappes iraniennes. Son voisin saoudien a lui aussi subi plusieurs attaques. Au petit matin, deux drones ont visé le site de l'ambassade américaine à Riyad, un vaste terrain de 11 hectares ceinturé de murs de protection. Il y a eu une forte explosion, un départ d'incendie, mais pas de victimes. Les locaux sont fermés pour une durée indéterminée, tous les rendez-vous de routine ou d'urgence annulés, et l'ambassade a demandé à ses ressortissants de rester chez eux. Plus de 70 000 Américains vivent et travaillent en Arabie Saoudite. Donald Trump a promis une riposte.
Isabelle Labéry depuis le Sultanat d'Oman avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. La région qui va aussi subir des répercussions économiques puisque l'exportation du pétrole, du gaz notamment, est très compliquée depuis que l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz. On y reviendra avec notre invité. Ce sera d'ici une vingtaine de minutes. Et puis, conséquence de cette tension très forte autour du golfe Persique, des milliers de vols ont été annulés, des milliers de Français bloqués, des touristes notamment qui étaient en vacances à Abu Dhabi, à Dubaï et qui ne peuvent pas rentrer. Au total, selon le Quai d'Orsay, quelques 400 000 ressortissants français sont présents dans la douzaine de pays touchés par le conflit en cours. Louise Adélaïde Boinard, on vous retrouve. Le ministère des Affaires étrangères annonce ce matin que des vols vont être affrétés pour rapatrier certains de ces Français.
Oui, mais on ne sait pas encore combien, car moins de 25 000 personnes sont concernées selon le Quai d'Orsay. Seulement les plus vulnérables, à savoir les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes ou encore les enfants en bas âge. Ce sont les ambassades et consulats de chaque pays qui déterminent cette liste. Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a détaillé ce matin sur BFM comment ils seront rapatriés ensuite.
Il y a des vols commerciaux sur lesquels on parvient à obtenir des blocs de places, des vols civils que nous pouvons affréter. Il y a aussi des possibilités qui pourraient se présenter ou que nous pourrions solliciter d'avions de la République française.
Et dans la grande majorité des cas, les Français qui veulent revenir devront le faire par leurs propres moyens. Ils doivent impérativement se rapprocher des ambassades et consulats qui leur donneront les consignes à respecter car elles changent en fonction des lieux. Par exemple, les Français à Bagdad doivent rester confinés chez eux alors que ceux dans le Kurdistan irakien doivent aller en Turquie pour ensuite prendre un avion et partir. Un avion qu'ils paieront eux-mêmes. Aucun convoi n'est organisé non plus pour changer de pays.
Louise Adélaïde Boinard, merci pour toutes ces précisions. Et pendant ce temps, eh bien, les frappes se poursuivent aussi sur l'Iran. Quatrième jour de bombardement. Des dégâts ont été constatés sur le site d'enrichissement d'uranium de Natanz, près d'Ispahan, mais aucune conséquence radiologique n'a été enregistrée. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, de fortes explosions ont aussi secoué la capitale, Téhéran. Ce matin, l'armée israélienne a annoncé y avoir mené des frappes aériennes sur le bâtiment de la présidence iranienne, sur le Conseil de sécurité, pour tenter d'affaiblir encore un peu davantage le régime. Régime qui se veut pourtant combatif. Les portes de l'enfer s'ouvriront de plus en plus pour les États-Unis et pour Israël, ont averti les gardiens de la révolution, alors que les autorités préparent aussi la succession de l'ayatollah Khamenei. Bonjour Valérie Crovin.
Bonjour.
Et un nom semble se dégager, celui d'Ali Reza Arafi. Alors il fait partie du conseil de direction intérimaire, désigné après la mort
mort du guide suprême.
Il était l'homme de confiance d'Ali Khamenei, dont il incarne une forme de continuité. Ali Reza Rafi a suivi dès l'âge de 11 ans des études de théologie dans la ville sainte de Qom. Son père était imam. Durant son séminaire, il a étudié le droit islamique et la philosophie. Son influence repose en grande partie sur son expérience en tant que doyen de l'université internationale Al-Mustapha de Qom. Cette université forme des religieux chiites. Elle dispense des cours en persan, en arabe et en anglais et dispose de plus de 80 antennes à l'étranger. C'est l'un des vecteurs les plus importants de la propagation de l'islam chiite dans le monde. Ali Reza Rafi a accumulé d'autres postes clés en tant que membre du Conseil des gardiens de la Révolution et vice-président de l'Assemblée des experts, cette instance qui est chargée de désigner le futur guide suprême. Il parle très bien anglais. En 2022, on l'avait vu au Vatican, où il avait été reçu en audience par le pape François en tant que figure de l'islam chiite. S'il venait à succéder à Ali Khamenei, se pose néanmoins un problème de taille, celui de sa sécurité, parce qu'il a clairement une cible sur la tête.
Valérie Crova de la rédaction internationale. Ce matin, le Croissant Rouge iranien affirme que plus de 780 personnes ont été tuées à travers le pays depuis le début des frappes samedi. Et puis le gouvernement iranien annonce à l'instant interdire l'exportation des produits alimentaires et agricoles pour donner, je cite, la priorité à l'approvisionnement de la population en biens essentiels. Alors devant cette situation, l'agence de l'Union européenne pour l'asile s'inquiète d'un possible afflux de réfugiés iraniens en Europe. Dans un rapport qui a été réalisé avant le début des frappes mais publié ce matin, cette agence spécialisée estime qu'une déstabilisation partielle pourrait générer des flux de réfugiés d'une ampleur sans précédent. Le nombre de demandes d'asile déposées par des Iraniens en Europe est pour le moment assez faible, 8 000 en 2025, très loin derrière les Afghans, 117 000 ou les Vénézuéliens, 91 000 selon les chiffres publiés dans ce rapport. Quant aux conséquences économiques de ce conflit, eh bien elles sont déjà bien réelles. Les bourses mondiales s'enfoncent ce matin, moins 3% à Paris, moins 4% à Francfort, près de moins 5% à Milan. Les investisseurs inquiets de la flambée des cours du pétrole. On y reviendra avec notre invité à 13h30, même si le ministre de l'économie, Roland Lescure, se veut rassurant. Les stations-service ne vont pas se retrouver, dit-il, en situation de pénurie.
Il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court terme en France, ni sur le gaz, ni sur l'essence. Donc ne créons pas un problème qui n'existe pas. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de se rouer dans les stations-service. Il n'y a aucun risque d'approvisionnement, ni sur le gaz, ni sur l'essence.
Roland Lescure, lors d'une prise de parole face à la presse, le ministre de l'économie qui reconnaît cependant que le conflit au Moyen-Orient crée des incertitudes économiques à suivre de très près. Fin de citation. Tout cela sans doute n'est pas de nature à rassurer des chefs d'entreprise déjà soucieux du contexte politique et géopolitique. On va en parler avec vous. Raphaël Ben Abdelmoumen, bonjour.
Bonjour Céline.
C'est ce qui ressort d'une enquête nationale menée auprès de 1800 dirigeants, alors qui montre que l'envie d'entreprendre reste forte, mais que tous ont le sentiment de traverser une zone de turbulence.
Oui, d'un côté, les chiffres sont bons. Il n'y a tout simplement jamais eu autant de créations d'entreprises en France que l'année dernière. 1 165 000 nouvelles structures ont vu le jour. L'envie d'être son propre patron est donc au plus haut, quelle que soit la classe d'âge, le genre ou le territoire. Mais dans le même temps, le nombre de défaillances lui aussi bat des records et les préoccupations quant à la situation politique et économique grandissent chez les entrepreneurs, explique Philippe Crouzet, président d'Initiative France.
Ils sont inquiets d'un certain nombre de développements, soit propres à notre pays, bien sûr l'état des finances publiques, l'augmentation des impôts ou la baisse du pouvoir d'achat de leurs clients. Ils sont aussi inquiets des désordres du monde. Et là, je crois que l'impact principal des désordres du monde, c'est le prix de l'énergie.
Un futur incertain donc, malgré une année 2025 record, un constat en demi-teinte qui pèse en premier lieu sur l'emploi.
Les créateurs d'entreprises ou repreneurs d'entreprises sont à la fois confiants sur le développement potentiel de leur entreprise et en même temps plus réticents qu'ils ne l'étaient les années précédentes à embaucher.
Résultat, 57% des entrepreneurs interrogés ne prévoient pas de recruter de salariés supplémentaires cette année.
Raphaël Ben Abdelmoumen du service économie de France Inter.
France Inter, le 13-14.
Céline Asselot.
1,2 milliard d'euros, c'est donc le montant de la facture. Je vous en parlais hier, des tempêtes Nils et Pedro, les pluies, les crues exceptionnelles, les inondations qui ont touché des centaines de milliers d'habitants dans l'ouest et le sud-ouest de la France ces dernières semaines. Et la facture pourrait encore s'alourdir car toutes les opérations de nettoyage ne sont pas terminées. Ainsi, à Oudon, commune de 4000 habitants, Loire-Atlantique, les agents municipaux sont encore en train d'œuvrer. Reportage Céline Loiseau.
Place du marché, le Karcher est de sortie. Les agents communaux récupèrent aussi du matériel prêté à certains commerçants.
On va enlever les parpaings pour remettre les meubles à terre.
Alors les opérations de nettoyage, pour l'instant, se situent beaucoup sur l'espace public afin de réouvrir les routes qui ont été impactées par les inondations.
Sébastien Rabot est responsable du pôle aménagement à la mairie d'Oudon.
Et la deuxième partie, ça va être dès qu'on aura le feu vert, c'est procéder aux opérations de nettoyage des bâtiments communaux.
Car il faut attendre le passage de l'expert de l'assurance, mais il sait déjà qu'il y a des dégâts.
Notamment dans une salle où il y a le parquet qui est complètement soulevé par le mot qui est rentré dans le bâtiment. Là, il y a un beau chantier de renouvellement complet du parquet. Donc
8 bâtiments communaux, selon lui, sont concernés par les inondations.
Ça va être des vestiaires, des terrains de foot, des salles communales.
Ce qu'on voit déjà, et il faut s'attendre à de mauvaises surprises au fil des jours.
Ça peut être des équipements métalliques qui vont peut-être être amenés à rouiller, ça peut être des placos qui vont être foutus puisqu'ils auront pris l'humidité, donc vont être déformés, qu'on ne pourra même pas repeindre par exemple, ça va être des éléments comme ça. Et plus qu'on ne voit pas, l'isolation.
Place du marché, il faudra également vérifier les branchements électriques pour les commerces ambulants. Autre chantier attendu, au niveau du camping municipal, encore inaccessible en partie hier. Autant d'heures de travail de nettoyage et de réparation, dont le coût n'est pas encore chiffré.
Reportage signé Céline Loiseau, ici Loire-Océan. Les pluies les plus intenses, les crues plus violentes, ce sont des phénomènes qui portent la marque du changement climatique. Mais la biodiversité aussi, on le sait, est très impactée. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
C'est ce qui ressort notamment du bilan annuel de l'IFREMER, l'Institut de recherche publique sur l'état des populations de poissons pêchés en France. Alors on y apprend que les coquilles Saint-Jacques, le thon rouge ou encore le merlu se portent plutôt bien, c'est moins rassurant. En revanche, concernant le maquereau, le hareng, environ 50% des volumes de poissons débarqués dans les ports français proviennent de poissons exploités durablement. C'est moins bien que l'année précédente, Sandy, et le réchauffement climatique est désormais une menace bien identifiée.
Oui, l'IFREMER tire la sonnette d'alarme. L'océan se réchauffe, il devient plus acide, ce qui perturbe le renouvellement des populations de poissons, comme le hareng dans la Manche. Et en mer du Nord, désormais classée dans la catégorie surpêchée par l'IFREMER, Clara Ulrich coordonne les suivis scientifiques des stocks de poissons à l'IFREMER qui servent à fixer les quotas de pêche.
Le hareng, comme une grande partie des populations de poissons aujourd'hui, subit les effets du changement climatique qui se rajoutent à ceux de la pêche. Donc globalement, beaucoup de nos populations de poissons aujourd'hui commence à montrer des signes de difficultés de croissance, de reproduction. Donc globalement, l'océan est moins productif, produit moins de poissons. Et donc, il faut protéger un peu plus les poissons qui sont aujourd'hui dans la mer pour leur permettre de grandir et de se reproduire.
Et l'IFREMER recommande de réduire les captures de poissons pour s'adapter. Sujet sensible, bien sûr, pour les pêcheurs. Car selon le rapport de l'IFREMER, le réchauffement climatique pourrait faire baisser la biomasse de poissons d'un quart dans les eaux françaises d'ici la fin du siècle.
Merci Sandy Dauphin, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter. Un rassemblement organisé ce matin devant un salon de coiffure et d'esthétique à Paris. Salon afro dans le 10e arrondissement de la capitale où les salariés dénoncent leurs conditions de travail et se plaignent de ne pas avoir été payés depuis plusieurs mois. Plusieurs d'entre elles sont en situation irrégulière. Elles se disent exploitées par leur employeur. Soutenues par la CGT, elles ont donc décidé d'occuper les lieux jusqu'à obtenir gain de cause. Jeanne Mézia.
Entre les perruques et autres produits pour les cheveux, les femmes qui travaillent ici ont toutes enfilé des gilets rouges de la CGT. Elles ne reprendront pas le travail avant d'avoir reçu leur salaire.
On est en grève contre notre patron qui refuse de nous donner nos droits.
Fofana travaille ici depuis 4 ans et demi. Elle explique ne pas avoir été rémunérée depuis le mois d'octobre, n'avoir jamais pris de vacances et surtout avoir été extorquée par son patron parce qu'elle n'a pas de papier.
Il m'a dit pour avoir un titre de séjour, pour qu'il puisse me donner les fiches de paye, le contrat de travail, pour que je puisse rentrer à la préfecture, il faudrait que je paye 250 euros parce qu'il ne peut pas payer mes charges. Donc il faudrait que ce soit moi qui paye les charges. Donc il me prélevait 250 euros par mois.
Elle survit et s'occupe de sa petite fille grâce à la CAF. À côté d'elle, Fatima Toubintou aussi rencontre des difficultés dans son quotidien.
Je me suis privée de certaines choses comme manger, je me suis privée ma famille également, dont je ne peux plus encore m'occuper.
Alors face à cette situation, Adèle Télèze, co-secrétaire générale de la CGT Paris, souligne le courage de ces femmes qui
aussi se mobilisent.
C'est une grève de femmes, c'est une grève de femmes immigrées. C'est des salariés particulièrement vulnérables, mais qui ont décidé de se battre. On est à leur côté jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on gagne et ce qu'on obtienne satisfaction. Et
pour l'instant, le patron du salon a été prévenu de l'action, mais n'a pas encore réagi.
Reportage signé Jeanne Mézia. 1200 écrivains, 450 maisons d'édition et plus de 110 000 visiteurs chaque année. Le Salon du Livre de Paris est l'une des plus grandes manifestations littéraires en France. Et le voilà aujourd'hui au cœur de la polémique. Bonjour Ilan Amour-Youssef.
Bonjour.
Le syndicat de la librairie française a en effet décidé de boycotter la prochaine édition qui aura lieu au mois d'avril pour protester contre le partenariat entre le Salon et le groupe Amazon.
Alors ce n'est pas la première fois qu'Amazon est présent au Festival du Livre de Paris. Il y est depuis le lancement de la liseuse Kindle en 2012. Mais ce qui fait bondir le syndicat de la librairie française, c'est le fait qu'Amazon soit devenu un partenaire. En clair, il finance en partie le festival et il a son logo sur l'affiche. Alexandra Charouin, présidente du syndicat de la librairie française.
On est déjà extrêmement choqués par le fait que les éditeurs fassent le choix d'être soutenus financièrement par un acteur qui n'est pas un ami.
Et de rappeler le contournement par Amazon de la loi Darcos sur l'interdiction des frais de port gratuits ou encore la mise en vente de livres écrits par l'intelligence artificielle. De son côté, le festival ne souhaite pas polémiquer. Il indique qu'aucun des libraires qui tiennent normalement les stands du festival n'a annoncé son intention de se retirer. La réaction d'Alexandra Charouin.
Les libraires qui tiennent des stands de vente et dans un contexte économique qui est très difficile pour les libraires, je peux concevoir que ce soit une décision difficile à prendre. Je peux entendre cet argument-là. Moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà commencé à recevoir des mails de soutien de confrères et consoeurs qui se félicitent de la position du syndicat.
Et même si ce boycott n'a que peu d'effets concrets, les libraires tiennent à rappeler qu'ils sont les meilleurs défenseurs de la diversité éditoriale.
Merci Léna Mouriosef, spécialiste littérature à la rédaction de France Inter. Et puisque l'on parle de livres, une petite info concernant le prix du livre Inter, c'est maintenant qu'il faut nous écrire si vous voulez faire partie du jury des lecteurs et des lectrices, aux côtés du président qui sera cette année l'écrivain Laurent Mauvignier. Notre comité de sélection ici à la Maison de la Radio attend vos lettres et vous avez jusqu'au 15 mars prochain pour nous écrire toutes les infos sur le site franceinter.fr. Et puis c'est une histoire d'amour qui dure, les Français toujours aussi fans des animaux de compagnie. Près de 6 Français sur 10 déclarent posséder un chat ou un chien, c'est un chiffre en nette augmentation depuis quelques années. Encore faut-il pouvoir s'en occuper, pas toujours facile. Quand on a un gros chien, qu'on habite dans une petite maison ou dans un appartement, d'où ces stations de lavage canin en libre service qui se multiplient, comme ici dans le Calvados. Martin Cotta.
On y va ?
À Villers-Bocage, Lydie Le Chal a installé une station libre-service à côté de son salon de toilettage il y a 2 ans.
Peut-être après Covid, les gens ont beaucoup de gros chiens. Donc je ne pouvais pas prendre tous ces chiens en fait, et un lavage 7 jours sur 7, ça serait l'idéal pour eux. Avec 10-15 euros, vous pouvez laver votre chien, voilà.
Le succès est instantané, Lydia a doublé son chiffre d'affaires.
Grâce au dog wash, j'ai 2 apprentis, donc voilà.
À Verson, près de Caen, le Carrefour Contact propose désormais ce service depuis 3 semaines. Johan Perrette, son directeur.
C'est toujours embêtant quand on va promener son chien à la plage ou en forêt, de nettoyer chez soi, dans sa douche. J'ai senti le besoin de faire appel à un fournisseur à ce niveau-là pour répondre au mieux aux clients. C'est 10 euros pour les petits chiens et 15 euros pour les gros chiens.
Un service à utiliser quand même avec parcimonie, ton père Chris. Il promène Snoop, son Jack Russell, pas loin de la station.
Le problème, c'est que ça retire du travail aussi. Ceux qui s'occupent vraiment des animaux, maintenant avec ça, ils perdent du travail aussi. Les gens, si ça coûte moins cher et que c'est aussi efficace, ils vont aller là-dedans.
Pour laver son chien dans ces petites stations, il faut penser à se munir d'une brosse et d'une serviette.
Voilà pour les conseils et pour cette nouvelle tendance. Donc Martin Cotta, ici Normandie, 13h23. Restez avec nous sur France Inter. Dans un instant, encore du soleil et de la douceur. Sophie Bria sera avec nous pour les prévisions météo de ces prochaines heures. Et puis on va se pencher sur l'importance stratégique du détroit d'Ormuz avec notre invité l'Iran. On en parlait tout à l'heure, bloque le trafic maritime dans cette zone essentielle empruntée par des milliers de pétroliers, de porte-conteneurs, et ça risque d'avoir des conséquences importantes que l'on va détailler avec Cyril Poirier-Coutancier du Centre d'études stratégiques de la Marine. Et puis avec vos questions, j'espère nombreuses, je vous rappelle le numéro 01 45 24 7000. Notre feuilleton, une semaine dans leur vie, toujours dans les coulisses du bazar d'électricité, ce très vieux magasin parisien, 140 ans d'existence, qui est le temple, de l'ampoule, 5000 références et des clients venus de partout pour venir les acheter. Vous verrez ça dans l'épisode du jour. 13h50, c'est la France et le mardi, c'est avec vous. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Céline.
Du quotidien Ouest France. Alors, où allez-vous nous emmener aujourd'hui?
Eh bien, Céline, de Cholet dans le Maine-et-Loire à Reims dans la Marne, en passant par Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône, on part à la recherche des objets perdus.
Et bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qui est à votre micro aujourd'hui?
Le chanteur Miel de Montagne, qui nous parlera d'une chanson qui lui tient beaucoup à cœur, Jeudi M, sortie par Mathieu Chédid à l'époque où il s'est fait connaître sous le nom de M.
C'est un très bon choix, en effet. Merci à tous les deux, je vous dis à tout de suite.
Ah, le mois de mars. Plus le matin, plus le soir. Pour lundi 50, c'est pas tout de suite. Mais pour acheter ses billets Paris-Lyon pour l'été avec Trenitalia, là, c'est tout de suite. Soyez premier sur l'été dès le 4 mars sur trenitalia.fr à partir de 23€. Oui, trenitalia.fr.
Quand on est entrepreneur, il y a ce moment où son activité prend de l'ampleur. Avec davantage de clients, sur des affaires plus importantes. Et là, son activité change d'échelle. Sur des dossiers encore plus grands, sur des projets encore plus grands.
Quand vous voyez plus grand pour vos affaires, BNP Paribas met toute son expertise à votre service. Nous finançons vos projets, même les plus ambitieux, grâce à des solutions adaptées. Demandez conseil à l'un de nos 2000 chargés d'affaires. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Sous réserve d'études et d'acceptation par BNP Paribas. Voir détaillées conditions sur mabanquepro.bnpparibas.
France Inter, partenaire du film Alter Ego.
Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin.
Ça peut être possible, ça.
Et si une meilleure version de vous-même débarquait dans votre vie?
Tout sosie, mais pas du tout. Vous avez absolument rien à voir.
Le nouveau voisin d'Alex est son sosie parfait. À un détail près, contrairement à lui, il a des cheveux. Un double qui va totalement bouleverser son existence.
Ce type, c'est moi, en mieux.
Découvrez la nouvelle comédie décalée de Nicolas et Bruno avec Laurent Lafitte, le 4 mars au cinéma, un film France Inter.
13h26, la météo.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Et les prévisions, c'est avec vous. Bonjour Sophie Briand.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et voilà donc la douceur printanière qui s'installe.
Et oui, avec des températures au-dessus des valeurs de saison de 5 à 8 degrés par endroit. Il fait de 15 à 20 cet après-midi sur tout le pays. 15 à Aurillac et Béziers, 16 degrés à Colmar, 17 à Lille et Nîmes, 18 à Lyon, Blois et Bordeaux, 19 à Paris et Valence et 20 degrés à Ajaccio et Biarritz.
Alors certains auditeurs ont peut-être remarqué que le ciel est légèrement jaunâtre sur la moitié sud de la France. Comment ça s'explique?
Alors en fait, il y a un flux de sud qui est installé entre une dépression positionnée près du Portugal et un anticyclone qui est centré sur le nord de l'Europe qui apporte du sable du Sahara. Ah. Et vous pouvez avoir donc un ciel voilé, voire jaunâtre. Donc, il faut faire attention aussi aux particules fines. Mmh. Vous allez peut-être retrouver du sable sur vos voitures. Et ce, jusqu'à vendredi, hein, tout doucement, ce ciel voilé, ce sable du Sahara va atteindre le nord de la France, avec un pic jeudi sur tout le pays. Et cet après-midi, donc, de l'Aquitaine aux Alpes du Sud, jusqu'aux Pyrénées et la Corse, bah, le ciel est donc bien voilé. Mmh. Alors que le reste du pays est sous un soleil beaucoup plus généreux, excepté entre la Bretagne et les Hauts-de-France, où quelques nuages circulent, et dans le golfe du Lion, car les entrées maritimes sont encore bien présentes jusqu'au sud du Massif central.
Merci Sophie Briand pour toutes ces prévisions.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
C'est un étroit passage maritime d'une largeur d'à peine 50 km coincé entre l'Iran et le Sultanat d'Oman et qui est devenu ces dernières heures l'un des points névralgiques du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran. On va tenter de mieux comprendre l'importance du détroit d'Ormuz avec notre invité, c'est vous, Cyril Poirier-Coutancé. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans le studio de France Inter, spécialiste de géostratégie maritime. Vous dirigez le département recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine. Alors en quelques mots d'abord, avant d'évoquer la situation aujourd'hui, parlons peut-être de la situation habituelle pour qu'on comprenne justement l'importance de cette zone. C'est un détroit qui est très fréquenté, qui est un endroit essentiel pour le transport de pétrole notamment.
Oui, pour le transport d'hydrocarbures au sens large, vous avez à la fois pétrole, gaz. C'est 20% des exportations de pétrole et de gaz qui passent par ce détroit d'Ormuz. Donc c'est important. Après, il y a d'autres zones d'approvisionnement dans le monde, mais c'est un endroit stratégique.
Oui. Alors j'ai lu un quart du pétrole mondial, un cinquième du gaz naturel liquéfié qui transite.
Oui.
Qui transite entre quel et quel pays, en fait, précisément?
Alors, vous avez un peu, donc, déjà tous les états du Golfe arabo-persique, hein, que ce soit l'Iran, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, etc., exportent des hydrocarbures. Et puis, de l'autre côté, donc, vous allez avoir on va dire que l'ensemble du monde est desservi, mais il y a quand même une zone qui est prioritaire, c'est l'Asie. Mmh. La Chine, c'est 50% de ses approvisionnements qui proviennent de cette zone en pétrole. Corée du Sud, Japon. Nous, sur le continent européen, on est moins tributaire de cette zone, puisqu'on a des approvisionnements plus diversifiés, États-Unis, Algérie, Libye, Nigeria, etc. Donc potentiellement moins vulnérable à ce qui se passe dans cette zone-là.
Et c'est pour ça qu'on a vu la Chine réagir très fortement, parce qu'il pourrait y avoir un impact immédiat en Chine avec ce qui se passe avec le blocage ?
Alors la Chine a anticipé depuis longtemps le monde de crise dans lequel on est rentré. Donc la Chine a des réserves stratégiques qu'on estime à peu près 3 mois de consommation. La Chine, en plus, a eu une politique aussi qui a une nature très géopolitique de décarboner son économie. Voitures électriques en grand nombre, on en parle sur d'autres sujets. Donc, essayer d'être moins dépendant des hydrocarbures pour être moins dépendant des crises potentielles qui peuvent exister.
Alors, je crois qu'on va reparler d'anticipation. Ça me semble être un point clé dans tout ce qu'on se dit. D'abord, juste pour terminer l'image, qu'on comprenne bien d'où on part. C'est un détroit qui est important aussi pour les pays européens qui importent des marchandises, qui exportent aussi des produits agricoles, des céréales, des cosmétiques, en ce qui concerne la France, par exemple, vers ces pays du Golfe.
C'est pas le marché majeur. Par contre, il y a une situation qui est importante pour ces pays, c'est leur approvisionnement agroalimentaire, et notamment alimentaire. Donc, puisque évidemment, Arabie Saoudite ne produit pas de blé, ne produit pas de denrées alimentaires, et donc ils sont tous ultra dépendants des approvisionnements extérieurs. Et donc le blocage d'Hormuz est un problème pour l'exportation des hydrocarbures, mais aussi pour les importations de ces pays-là. C'est un sujet qui est important.
Est-ce qu'on sait à peu près combien de navires franchissent ce détroit tous les jours ?
On est à 110 navires par jour en général.
110. Pétroliers, porte-conteneurs, il y a un peu tout. Ouais. Donc 110 habituellement, là on est à zéro, quasiment en tout cas. Depuis samedi, le détroit est quasiment à l'arrêt. Plusieurs navires ont été ciblés par des frappes iraniennes. Les principaux armateurs mondiaux ont donc décidé de ne plus tenter le passage. Les gardiens de la Révolution menacent aussi désormais d'ailleurs de brûler tout navire qui tenterait de franchir le détroit. Est-ce que vous parleriez, Cyril Poirier-Coutancé, d'une situation inédite ?
Alors pas inédite, parce que ça s'est déjà produit notamment lors du conflit entre l'Iran et l'Irak. Vous aviez donc et d'ailleurs avait été mis en place à l'époque des systèmes d'escorte des navires du transport maritime. Donc c'est pas nouveau, mais ce qui est par contre inédit, une petite différence quand même avec cette époque-là, c'est que dans le monde, mis à part l'Asie, donc on a diversifié nos approvisionnements. Donc l'impact est moins fort pour nous, continent européen par exemple, l'impact sur la pompe, pour parler clair, est moins fort qu'il y a quelques années.
Mais est-ce que c'est la première fois que tous les armateurs mondiaux disent « là, on arrête, on tente même pas le passage » ?
Non, c'est pas la première fois. Il suffit de se reporter mais quelques mois en arrière, avec ce qui s'est passé en mer Rouge, par exemple, avec les frappes des Houthis. Les armateurs, il faut toujours imaginer, on parle toujours des tarifs d'assurance, etc., sur les armateurs. En fait, le premier souci des armateurs, quand même, c'est les marins qui sont à bord de leur bateau. Et donc, l'idée, c'est quand même de pas les mettre en danger. Et donc, évidemment, quand il y a un risque, eh bien, les bateaux sont mis à l'abri, ou alors se détournent pour passer par d'autres endroits.
Ça concerne des navires français, un armateur français, des armateurs français ?
On a des navires de CMA-CGM, par exemple, qui sont dans le golfe arabo-persique, effectivement, et puis évidemment, les navires ne vont pas rentrer dans le golfe arabo-persique. Donc on a le sujet de ceux qui sont actuellement dans des ports, qui ne peuvent pas en sortir, et ensuite, ceux qui pourraient potentiellement y rentrer ne vont pas y rentrer.
Alors ceux qui sont bloqués, effectivement, à l'intérieur du golfe persique, on les estime à environ 150, dont une majorité de pétroliers, mais aussi des ports-conteneurs. On n'est pas sûr du chiffre, parce que paraît-il, mais vous allez me dire si c'est le cas, certains peu préfèrent éteindre leur balise pour éviter d'être localisés. Ça, c'est une pratique.
Exactement, parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc c'est pour parler un peu jargonner un peu, c'est les balises AIS. Donc ça vous permet de détecter par les satellites. Mais en fait, tout le monde, les auditeurs comme vous, comme moi, mais aussi donc en Iran, peuvent voir l'emplacement de ces bateaux. Donc c'est pratique pour les frapper aussi.
Bien
donc,
sûr.
On coupe.
C'est à double tranchant. Effectivement. Est-ce qu'on sait pourquoi, finalement, l'Iran a voulu vraiment mettre beaucoup de moyens pour bloquer ce détroit d'Hormuz ? C'est une stratégie délibérée.
Oui, c'est une stratégie délibérée. En fait, c'est un peu ce qu'on pourrait dire la stratégie du faible au fort. C'est-à-dire que l'Iran n'a pas les capacités militaires de résister aux États-Unis et à Israël. Donc, la solution pour l'Iran, c'est essayer que des pays extérieurs puissent faire pression sur les États-Unis, sur Israël, pour arriver à stopper le conflit. Et il y a un pays extérieur qui est essentiel pour ça, c'est la Chine. Mmh. Parce que la Chine est très dépendante de ses approvisionnements, le Japon, la Corée du Sud aussi. Donc c'est le jeu de l'Iran, c'est essayer de bloquer cette zone-là pour qu'il y ait une pression sur ces deux États.
Est-ce que ça peut marcher ?
C'est difficile à dire parce que alors on voit que la stratégie à la fois des États-Unis et de l'Israël est pas exactement semblable. Israël, c'est ça semble assez clair, c'est de qu'il y a un changement de régime. Les États-Unis sont pas forcément sur cette ligne intégrale. Donc il faudra voir. Ce qui est sûr, c'est que ça peut jouer en tout cas sur un État, c'est sur les États-Unis à terme, si le conflit dure, etc.
On va aller au standard de France Inter où nous attend Jean-Louis. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Je vous laisse poser votre question.
Bonjour.
Oui, j'avais une petite question à vous poser. On a longtemps cru que la mondialisation rendait les mers plus sûres, me semble-t-il. Alors je m'interroge, Hormuz signe-t-il le retour d'une mer conflictuelle où chaque détroit devient un champ de bataille économique ?
Merci pour votre question, Jean-Louis. Cyril Poirier-Coutancet vous répond.
Oui, alors en fait, l'illusion d'une mondialisation et donc d'une paix un peu éternelle, il y avait quelque chose qui était sous-jacent, qu'en réalité, il y avait un pays qui était le gendarme du monde et qui assurait la paix mondiale, qui était les États-Unis. En tout cas, qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas y avoir de crise. À partir du moment où les États-Unis, et ça remonte à un petit moment, hein, 2007-2008, sous Barack Obama, ont décidé de faire le pivot vers l'Asie, c'est-à-dire de ne plus s'engager dans tous les conflits qui peuvent exister dans le monde, il n'y a plus de gendarmes. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de gendarmes, eh ben, c'est le retour de différents conflits. Et donc, la mer, mais comme la terre, d'une certaine manière, eh bien, est sujet au retour, effectivement, des conflits de tous ordres.
Parce qu'on n'a pas le droit, on va peut-être le rappeler, ça paraît une évidence, mais bon, on peut le rappeler quand même, c'est contraire au droit international et à la liberté de navigation, notamment de bloquer, de décider que tous les navires ne pourront plus passer dans un détroit comme celui-ci.
Exactement, oui, c'est contraire au droit international. Et si on se reporte justement quelques années en arrière, ce que j'évoquais sur l'escorte du transport maritime lors de la guerre Iran-Irak, c'était sur le fondement du droit international, justement, pour assurer le libre passage et le libre commerce. Et donc si ce conflit devait se poursuivre de cette manière-là, on peut très bien imaginer un retour de ce système d'escorte.
On va prendre une autre question, c'est Simon qui est en ligne avec nous. Bonjour Simon.
Bonjour.
Et bienvenue.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Je vous laisse poser votre question.
Oui, juste un petit mot avant, c'est que je soutiens parfaitement la liberté, la volonté de liberté des Iraniens. La question c'était par rapport à ce détroit, un instant monsieur l'a évoqué, le fait de bloquer le transport international, pourquoi les pays concernés ne bombardent-ils pas directement l'Iran, responsable de ce blocus interdit ?
Qu'en pensez-vous, Cyril Poirier ?
Alors, c'est ce qui se passe. Oui. C'est ce qui se passe en ce moment. Toute la difficulté, c'est de réussir à éradiquer, entre guillemets, tous les départs de missiles, tous les drones qui peuvent être tirés. Et ça se fait pas en une journée ni en deux journées. Ça prend du temps. Mais c'est l'objectif. On a bien vu ce qu'ont fait les États-Unis, par exemple, de couler toute une série de navires iraniens, justement, pour faire en sorte que ce détroit puisse réouvrir, mais ça prend forcément du temps.
Est-ce que l'Iran peut également pâtir de sa propre décision, parce que c'est un pays aussi exportateur de pétrole ?
Oui, à long terme, évidemment que l'Iran peut en pâtir. Par contre, là, dans le court terme, c'est la seule carte qu'ils entendent jouer pour essayer de renverser le rapport de force et faire en sorte que ce conflit puisse s'arrêter. Donc, à très court terme, c'est avantageux pour eux. Sur le long terme, ça pourrait évidemment poser des problèmes.
Alors justement, court terme, long terme, quelles sont les alternatives pour les navires ? Est-ce qu'on attend de voir si ça va se débloquer dans les prochains jours ? Ou est-ce que déjà les armateurs se disent « bon, faut qu'on trouve d'autres routes ?»
Alors, de toute façon, sur le golfe arabo-persique, on n'a pas tellement de routes alternatives. Ce qui va jouer, c'est que, comme je l'évoquais en tout début, il y a d'autres pays producteurs de pétrole, donc dans le golfe de Guinée, etc. Donc, le sujet de l'approvisionnement en pétrole et en gaz n'est pas un sujet. Par contre, évidemment, les armateurs ne vont pas desservir cette zone, ils vont attendre de voir ce qui se passe. Sur le trafic de conteneurs entre Europe et Asie, ça ne joue pas, parce qu'il y a le détour par le cap de Bonne-Espérance. différence. Donc là, c'est plutôt wait and see, on va dire.
Et les oléoducs, ça peut permettre quand même de rerouter, j'allais dire, le terme est sans doute pas très adéquat, une partie des hydrocarbures.
Avec une difficulté là qu'on a bien pointée, qui a été évoquée dans votre journal justement, c'est que les voies, donc pour éviter ce détroit d'Ormuz, c'est par le sultanat d'Oman, mais le sultanat d'Oman a été tapé par l'Iran justement. Une autre voie possible, c'est vers la mer Rouge, donc il y a un oléoduc qui traverse l'Arabie Saoudite, mais là on a les outils, l'Arabie Saoudite a été tapée justement aussi là-dessus. Et une autre voie potentielle, c'est en Méditerranée, qui arrivera en Méditerranée, donc via Irak, Kurdistan, et puis ensuite Turquie. Il y a aussi des difficultés dans cette zone-là. On voit que le conflit se durcit entre Hezbollah et Israël, donc il n'y a pas de solution alternative idéale, on va dire.
Mais c'est là qu'on en revient à la question d'anticipation que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'on voit le détroit d'Ormuz, on voit le canal de Suez, la mer Rouge, tout ça qui pâtit un peu des tensions géopolitiques depuis quelques années. Comment les armateurs peuvent mieux se préparer aux crises futures pour faire en sorte que le transport maritime soit le plus fluide possible à l'avenir, malgré les crises ?
Les armateurs sont plutôt...
Les armateurs ou les pays, d'ailleurs.
Oui. Je dirais que le problème n'est pas tellement du côté des armateurs qui, en fait, ont montré qu'ils s'adaptent assez facilement. Vous voyez, quand la mer Rouge a été, pour ainsi dire, coupée par les tirs des Houthis, ils ont fait le détour par le cap de Bonne-Espérance. Ça n'a pas été une difficulté majeure. On l'a pas ressenti dans nos pays. Ce qui est important, par contre, c'est effectivement au niveau des États de pouvoir anticiper ça. J'évoquais la Chine qui anticipe depuis un moment le fait qu'il faut qu'elle soit moins dépendante des hydrocarbures. Le continent européen, on en parle beaucoup. On fait des choses. Mais il faut peut-être accélérer, parce que ces crises ont vocation à se répéter. Alors on a diversifié nos approvisionnements en pétrole et en gaz, donc ça nous rend moins vulnérables. Mais plus vite on passera à une économie décarbonée, donc à base de voitures électriques, etc., moins on sera dépendant des hydrocarbures, et donc moins on sera vulnérable à ces crises.
Mais il n'y a pas que la question des hydrocarbures, il y a la mondialisation du commerce dans son ensemble et tous les biens manufacturés, par exemple, qui arrivent d'Asie, notamment. Est-ce que là-dessus on peut faire quelque chose ? Ou est-ce que de toute façon, si on fait traverser au monde des marchandises, on est forcément vulnérable aux crises ?
De toute façon, les marchandises vont continuer à circuler. On peut relocaliser par exemple un certain nombre de productions en Europe. Il n'empêche qu'on sera toujours dépendant d'un certain nombre de produits, ne serait-ce qu'agroalimentaires. Quand on pense au café qu'on sirote en continu dans nos pays, le café c'est pas demain la veille qu'on va en produire en France, qu'on va en produire en Europe, donc on sera dépendant d'un certain nombre de lignes. Ce qu'il faut, c'est pouvoir diversifier les approvisionnements et puis avoir aussi des forces navales et des marines qui soient en capacité d'escorter, si besoin, les armateurs aussi.
Alors avant de revenir sur les conséquences, je vous soumets cette question de Marc. L'un de nos auditeurs, comment l'Iran interdit-il le passage du détroit ? Est-ce qu'il s'agit d'utiliser des drones, des sous-marins, marines de guerre, artillerie terrestre, avions de combat ? Détaille notre auditeur. Est-ce qu'on sait d'ailleurs exactement de quels moyens dispose l'Iran pour justement bloquer le trafic maritime ?
Alors en fait, ce qui est... Là, il y a eu simplement deux pétroliers qui ont été tapés, pas plus. Mais l'Iran, en annonçant que, quel que soit le navire qui passe, il serait frappé, a fait que les armateurs n'ont pas pris le risque.
Donc en fait, c'est la menace qui suffit, finalement.
Et ce qui se comprend de la part des armateurs, effectivement, on n'en voit pas un équipage prendre des risques inconsidérés. Donc en fait, là, pour l'instant, la menace suffit. Il y a eu deux frappes qui ont montré que l'Iran était en capacité de taper des pétroliers. Et puis, à partir de là, elle a annoncé, effectivement, que n'importe quel navire serait frappé, et ça suffit.
Est-ce qu'il n'y a pas une question d'assurance aussi ?
L'assurance, oui. Alors, on est en zone de guerre, donc forcément les assurances vont augmenter. Mais honnêtement, la question se pose même pas d'une question. Enfin, c'est pas une question de prix. Pour le coup, vous n'allez pas envoyer vos marins prendre des coups pour le plaisir, quoi.
Alors, on entendait tout à l'heure Roland Lescure, le ministre de l'économie, dire qu'il n'y a pas de risque de rupture d'approvisionnement. Donc, pas la peine d'aller faire la queue à la station-service, comme on le voit déjà dans certains endroits, puisque les automobilistes ont peur éventuellement de manquer d'essence dans leur voiture. Mais est-ce qu'on peut imaginer une répercussion sur le prix à la pompe ?
Oui, il peut y avoir une répercussion sur le prix à la pompe. Mais ce qu'on voit, en tout cas pour l'instant, sur les augmentations du prix... des prix mondiaux du gaz et du pétrole, c'est que ça pas pris ça a pas augmenté de façon démesurée. On est sur des niveaux qui sont bien en deçà du déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc on n'est pas, parce que aussi les acteurs économiques sont tout à fait conscients qu'il y a des pays d'approvisionnement qui sont extrêmement diversifiés dans le monde. Donc on n'est pas ultra. En fait, il faut bien avoir en tête pour nos éditeurs aussi, il y a une différence entre les années 70-80 où le monde était entièrement dépendant du Golfe arabo-persique. Mmh. Aujourd'hui, il y a des tas de pays producteurs de pétrole et de gaz dans le monde, et donc la situation n'est pas exactement la même.
Par ricochet, est-ce que ça peut créer des perturbations dans d'autres secteurs d'activité ? Il y a des plateformes de e-commerce en Chine qui disent, attention, les délais de livraison vont être rallongés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'explique finalement ?
Alors, sur le commerce entre Chine et Europe, il n'y aura pas d'impact particulier parce qu'en fait, ce commerce ne transite pas par le Golfe arabo-persique. Il va passer entre la Chine et puis faire le tour par le Cap de Bonne-Espérance, arriver en Europe. Par contre, la répercussion qu'il peut y avoir si ce conflit devait durer longtemps, c'est justement sur l'approvisionnement en hydrocarbures de la Chine. Donc, sur les industries manufacturières chinoises. Là, pour le coup, il y aurait un problème sur la production, mais on n'en est pas encore là. Il y a encore 3 mois de réserve stratégique chinoise. Et puis, je suis persuadé que la Chine va faire pression pour l'Iran pour que ça se calme, parce que, en fait, c'est la Chine qui est le premier pays impacté.
Tout ce que vous nous expliquez montre effectivement qu'il risque d'avoir une pression très importante. Mmh. Une petite question de vocabulaire, parce que c'est une question que nous ont posé plusieurs de nos auditeurs sur l'appellation du Golfe arabo-persique dont vous parlez tout à l'heure, qui est donc desservie par le détroit d'Ormuz depuis la mer d'Oman. Je suis d'origine iranienne, nous dit par exemple Cambiz. Sur quoi vous basez-vous pour appeler ce golfe le Golfe arabo-persique?
En fait, chaque pays riverain en fait du Golfe souhaite l'appeler alors le Golfe Persique ou autre. On a la moitié des pays riverains donc qui sont des pays arabes de la péninsule arabique, l'autre moitié c'est l'Iran. Mmh. Donc Golfe arabo-persique, ça fait une bonne moyenne, on va dire.
Merci pour cette précision de vocabulaire, c'est important aussi. Merci pour votre éclairage dans son ensemble. Cyril Poirier-Coutancet, vous êtes spécialiste de géostratégie maritime, directeur du département recherche du Centre d'études stratégiques de la marine. Je cite votre dernier ouvrage, La mer, une infographie, qui est paru chez CNRS Éditions. Merci d'être passé dans le 13-14, tout de suite le
Merci.
Temps. Et nous passons la semaine dans les coulisses d'un magasin chargé d'histoire. Le bazar d'électricité fête cette année ses 140 ans, tout près de la place de la Bastille. C'est le temple parisien des lampes, du petit matériel électrique, adresse mythique qui a résisté à toutes les crises et toutes les modes. Aujourd'hui, découverte du cœur battant du bazar, c'est le comptoir des ampoules, plus de 5000 références. On vient de tout Paris et même de plus loin pour dénicher la perle rare. Alexis Morel s'est faufilé derrière le comptoir aux côtés des deux responsables, Apolline et Malik.
Celle-là, combien vous en voulez de celle-là ?
4, s'il
quatre.
Vous plaît, oui.
Alors, ça, c'est une ampoule fluo-compacte. C'est une ampoule qui n'existe plus, qui est interdite à la fabrication, mais on a un produit équivalent en LED.
Très bien, ouais. Une, si vous
une plaît, bien sûr. Je m'appelle Malik, je travaille au bazar d'électricité depuis 1995. Ça fait 30 ans que je tourne autour des ampoules. Bah, on a nos casiers avec toutes nos ampoules, un peu à la manière d'Harry Potter avec les baguettes magiques. Au moins 200 casiers devant nous dans lesquels il y a une, deux ou trois références d'ampoules dans chaque casier. On a des choses qui se font plus, d'autres qui sont dernière génération. On nous demande tout le temps des choses improbables. Des ampoules pour des radios, des ampoules pour du médical. Je sais que parfois je peux passer une demi-heure avec un client juste pour une ampoule. Ça oui. Parce qu'il faut faire des recherches. C'est-à-dire quand ils viennent nous demander un mouton à 5 pattes, on n'a pas, il faut qu'on essaie de la trouver. Il faut contacter le fabricant, faut négocier les prix aussi, parce qu'ils ne veulent pas non plus forcément la payer trop cher. Mais celle-là, par exemple, ce qu'on appelle la tête marteau, avec une jolie ampoule à baïonnette, qui a une calotte sur le côté, latérale. C'est une ampoule qui allait dans certains luminaires un peu design des années 50-60. Cette ampoule-là, elle est quasi introuvable. Après, on en vend peut-être 2-3 par mois. Mais c'est pour 2-3 clients qu'on fait fabriquer ce genre de choses. On la fait fabriquer en LED parce qu'elle ne se fabrique plus du tout.
C'est ça, c'est un quart de tour comme ça, oui.
Ouais, et tout petit, ouais. Comme ça. Ouais.
Qui chauffe...
J'en prends deux.
Deux, oui.
C'est tellement difficile à trouver.
Bah oui, c'est interdit à la fabrication. Donc...
Ah bon ?
Oui, depuis 2021.
Excellent.
Je m'appelle Apolline et je travaille au bazar, au comptoir en poule depuis le mois d'octobre. La phrase qu'on va répéter le plus dans la journée, je pense un client sur deux, c'est de dire voilà, que l'halogène et le fluorescent sont interdits à la fabrication. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des ampoules halogènes chez eux. Bah, on explique aux gens que soit il faut faire du stock sur les ampoules qu'on a encore de disponibles, s'ils sont vraiment attachés ou s'ils veulent pas faire de modifications électriques sur leur luminaire, ou si c'est pas possible. Soit effectivement il faut passer sur de la LED. On va toujours encourager évidemment à passer sur de la LED. Les grandes enseignes de bricolage par exemple n'ont pas la possibilité de faire du stock sur ce genre de produits, donc eux ils sont passés uniquement sur de la LED et donc ils nous renvoient les clients qui ne veulent pas ou n'ont pas la possibilité de modifier leur installation. À un moment il y en aura plus, ça c'est certain, il y a déjà des tailles et des puissances qui sont épuisées. Donc c'est sûr que c'est pas infini. Mais pour l'instant, on a quand même encore pas mal de choix, quoi.
Là, c'est le driver.
Donc et ça, je vois sur le panneau, je prends la référence ou
si vous avez possibilité de revenir, prenez en photo.
Oui, de toute façon, je peux revenir.
Prenez en photo, et puis moi, je vais décrypter tout ça.
Ok, d'accord.
Ah, c'est un truc de référence, quoi. C'est l'endroit où tu trouves tout. Voilà. Et il n'y a qu'ici, en fait. Moi, j'ai fait les Castaux, les Leroy Merlin pour ce truc-là. Et je savais qu'ici, je le trouverais, quoi. Parce que moi, je viens depuis, moins 30 ans, facile, hein, ici. Ouais. Et ça va pas fermer, quand même, non ?
Ça reste... Non, non, non.
C'est pas pour ça. Pas déménager, non, non. Moi, j'ai toujours peur, les trucs comme ça. Je dis, non, parce que c'est vraiment une entité, ouais. On se demande comment ils ont pu acquérir un endroit aussi fabuleux, quoi.
Suite demain de ce feuilleton signé Alexis Morel.
France Inter, le 13-14.
13h50, c'est la France et le mardi, c'est avec vous, Cyril Petit du journal Ouest France. Vous nous racontez ces petites histoires qui en disent long. Aujourd'hui, Cyril, petites histoires d'objets trouvés.
Et je vous emmène, Céline, à Cholet, dans le Maine-et-Loire, avec une initiative solidaire prise par la municipalité et relatée dans Ouest France. Elle concerne les pièces et billets récupérés dans les portefeuilles et autres porte-monnaies rapportés à la police municipale qui centralise les objets trouvés. Mi-février, la mairie a décidé de transformer cet argent en subvention pour les habitants les plus fragiles. Près de 600 euros récupérés en 2023 ou 2024 ont ainsi été versés au CCAS. Alors, cette pratique est possible à partir du moment où le propriétaire du bien ne se manifeste pas dans le délai prévu, souvent un an et un jour après le dépôt. L'objet ou la somme est alors considéré comme abandonné et entré dans le patrimoine de la commune qui décide de son utilisation. Alors, d'autres collectivités donnent aussi à des associations différents objets comme des lunettes ou téléphones qui trouvent alors une seconde vie. Autant de façons, Céline, de faire des heureux.
Alors faire des heureux, c'est aussi la mission que se donne Nicolas Roche.
Il est le directeur de la police municipale de Reims. Dans le journal L'Union, il s'est réjoui début février d'avoir fait plusieurs centaines d'heureux l'an passé, après que son équipe a réussi à retrouver les propriétaires des objets perdus. En 2025, ça a été le cas 462 fois. C'est à la fois beaucoup et peu, rapporté aux 2500 pièces déposées l'an passé. Un objet rendu sur 4 ou 5 retrouvés, c'est d'ailleurs une moyenne qui ressort dans de nombreuses villes.
Mais est-ce qu'on perd beaucoup d'objets chaque année en France, Cyril ?
Alors, il n'existe aucune statistique officielle, mais plusieurs études privées évoquent entre 30 et 35 millions d'objets égarés chaque année en France. Selon une enquête Ipsos pour la start-up spécialisée sur le sujet Trouve, réalisée en 2021, les objets les plus perdus sont assez habituels, cartes d'identité, portefeuilles, clés, smartphones et lunettes. À Amiens, la police municipale publie sur Facebook ses trouvailles. Sur le poste de février, Céline, j'ai compté 10 sacs, 2 téléphones, 5 doudous et une trentaine de jeux de clés. Et puis voici le top 5 des lieux où les objets sont égarés, les rues, les écoles, les piscines, les transports en commun et les restaurants.
Et puis il y a les objets trouvés plus insolites.
Comme un violoncelle, un trombone, l'instrument, un sac de golf à Reims, un dentier ou un fauteuil roulant à Rouen, nous dit le site Actu, des menottes, des sièges bébés, des trottinettes à Louan-Château-Renault, indique le journal de Saône-et-Loire. À Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, parmi les 1138 objets recensés par la police municipale en 2025, il y avait une montre de luxe d'une valeur de 50 000 euros, révèle La Provence, preuve que le civisme n'a cette fois pas été perdu.
Il faut d'ailleurs rappeler, hein, Cyril, que rendre un objet trouvé, ben c'est obligatoire.
Oui. Le garder sans signaler sa découverte est interdit par la loi. Il faut le déposer dans un service compétent, à la mairie ou à la police par exemple. La personne qui trouve un objet devient alors un inventeur quand elle entreprend des démarches pour le restituer. Et si le propriétaire ne se manifeste pas, l'inventeur peut en devenir légalement propriétaire au bout d'un certain temps. Ainsi, à Reims, en 2025, 3 ou 4 objets ont ainsi été donnés à ceux qui les avaient trouvés et rapportés, écrit l'Union. Une inventeuse qui avait rapporté un sac contenant 100 euros témoigne. Je me dis que mon honnêteté a payé.
Et on la félicite. Merci Cyril Petit du quotidien Ouest France de C'est la France. Ah, c'est une chanson avec vous, Julien Baldacchino. Votre invité est aujourd'hui chanteur.
Et son nom, Miel de Montagne, dont la chanson Mas Cherquita en duo avec Girl Ultra passe régulièrement en ce moment sur les ondes d'Inter et qui vient de sortir une réédition de son album. Le disque s'appelait Ouin Ouin. La nouvelle version, c'est Ouin Ouin Ouin. Ce chanteur à l'univers poétique et singulier a eu envie de parler d'un titre qui résonne beaucoup pour lui, Jeudi M de M, alias Mathieu Chédid.
L'époque, je crois que c'est quand j'ai pris conscience qu'on pouvait faire de la musique. Toute cette époque où mon père travaillait avec Mathieu Chédid et je pense que j'avais vu ce morceau en live à un des Zéniths. Je pourrais pas dire où c'est, mais c'était sa première grosse tournée des Zéniths. Ça fait une étincelle dans mon crâne à ce moment-là. Donc ouais, un morceau hyper important pour moi. Mais d'ailleurs, je me pose la question parce que je l'écoute pas aujourd'hui, quoi. Par contre, si tu me la mets, je peux verser une larme parce qu'il y a un truc assez fort émotionnellement parlant.
Je le ménage nomade. Je le miroir maussade. Tantôt mobile, tantôt tranquille. Je moissonne sans bousculade. Je dis aime et je le sème sur ma planète.
Il y a un truc de la scène, il y a un truc de l'expression de la musique. Il y avait vraiment une partie improvisée. Et je crois que la mélodie... Enfin, en fait, tout me touche dans ce morceau parce que même en la réécoutant hier, puisque du coup, j'ai quand même fait mes devoirs. Genre, j'ai entendu en fait, les paroles. Je me suis dit qu'en fait, c'était tout ce que j'aimais dans le fait de faire de la musique. Même les paroles, c'est je dis aime. Il y a vraiment un message pacifique dans ces paroles. Et je crois que je fais de la musique aussi pour ça. Donc en fait, il y a une cohésion avec tout mon monde et toute mon inspiration.
Paris, au fil du cœur, d'une île dans mes veines, dans mes artères coule la Seine. Je dis aime et je le sème sur ma planète.
Je dis aime, une histoire de famille hein, pour Mathieu Chédid, puisque ses paroles ont été écrites par sa grand-mère, la poétesse Andrée Chédid.
Et c'est peut-être ce lien générationnel dans l'âme de la chanson qui la rend si touchante pour Miel de Montagne.
En fait, l'émotion dont je parle, elle est assez spéciale parce qu'en fait, il y a vraiment un truc qui est lié avec mon père et je crois que ça me fait pleurer. en fait, je sais pas, pourtant mon père, du coup, pour ceux qui ne savent pas, il a écrit qui de nous deux les paroles de cette chanson avec Mathieu Chédid. Mais pourtant, qui de nous deux, elle me touche pas autant que Jeudi M. Et Jeudi M, il y a un... Je pense que c'est vraiment dans la musique qui se passe un truc où je sais pas, il y a un lien avec mon père et il y a une espèce de beauté. Il y a une espèce de... Je sais pas, je pense que mon père va potentiellement mourir comme tous les corps du mortel. Et ça me... Je me dis, putain, mais mon père, il va mourir, ça va être terrible, mais c'est trop beau. Et je sais pas comment l'expliquer, mais c'est lié à ce morceau. Je cherche encore pourquoi, mais en tout cas... Je pense que c'est juste aussi peut-être des moments que j'ai vécu vraiment assez forts, d'enfant, de père-fils, parce que je voyais mon père vraiment comme un héros à ce moment-là. J'avais les yeux comme ça en mode « Ah mais je veux faire ce métier moi, je veux faire exactement la même chose ». Et ça m'a lancé aussi dans « Ok, c'est possible de faire ça ». En fait, je pense qu'il y a une énergie qui est restée en moi de cette période, je la ressens en fait. Je me vois à la campagne... Faire du vélo, genre jouer dans des cabanes avec mes amis, c'était une vie d'enfant, quoi, d'insouciance. Et y avait toute cette side-là où je voyais effectivement mon père. Je comprenais pas bien ce qu'il foutait, mais il y avait le piano à la maison, il y avait ces trucs-là, et maintenant je le comprends, ce qui se passait. Mais...
Et cette part d'enfance, elle existe aussi dans votre travail, dans vos chansons. Vous avez le sentiment que parfois elle revient, elle remonte au détour d'une phrase, au détour d'une mélodie.
Ouais, c'est peut-être un élément de repère, de comeback à la maison quand je suis un peu perdu. Il y a quelques morceaux comme ça que je me réécoute en disant « Ah, mais ok, je viens de là ». Un peu comme si, tu vois, ça faisait partie des meubles de la maison, ce morceau. Et voilà, de temps en temps, quand t'as trop déménagé, tu reviens un peu à ta première maison, tu te dis ok, c'était ça les fondations. Et ça me fait du bien.
Je dis aime et je le sème sur ma planète.
La chanson « Je dis aime » de Mathieu Chédid, c'était donc Julien, le choix de Miel de Montagne.
Qui sera en concert à Paris à la Maroquinerie pour 4 soirs du 26 au 29 mai prochain.
Merci Julien Baldacchino et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Céline Asselot.
Quel est le programme de la Terre au carré?
Eh bien nous allons parler des tiques à l'heure du réchauffement climatique.
Ça rime. À tout de suite Mathieu.